message vient juste d'arriver du Japon. Sur ce cliché, vous pouvez voir la CME qui aurait détruit notre sonde solaire.
Les autres relevés montrent que le Soleil a émis de multiples CME à de brefs intervalles. Ça n'était encore jamais arrivé auparavant.
En tout cas, pas dans l'histoire récente.
Donc elles vont frapper la Terre de plein fouet.
Alors toute l'humanité...
court à la catastrophe, oui.
On ne court pas à la catastrophe cette fois. On court carrément à l'extinction.
Voilà, extrait du film Alerte solaire, sorti en 2005. Et faut-il vraiment avoir peur des super éruptions solaires? C'est la question posée à la une de la science aujourd'hui à notre invité Axel.
Oui, Mathieu, c'est une question qui fait débat, hein, même chez les astronomes, car ces éruptions hypothétiques pourraient provoquer de très gros dégâts. Alors, pour tenter d'y répondre, des chercheurs sont allés au Groenland à la recherche de traces d'éruptions passées enfouies dans les glaces. Leurs résultats sont publiés dans la revue PNAS et suggèrent qu'un événement solaire inhabituel et important a eu lieu en 660 avant Jésus-Christ. Était-ce une super éruption? Pour le savoir, nous sommes au téléphone avec Guillaume Aulagnier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris. Alors ces traces, ces radionucléides que vos collègues ont trouvés dans les glaces du Groenland, est-ce que c'est enfin la preuve que ces super éruptions existent ou ont existé?
En deux mots, la réponse sera peut-être.
Merci d'être venu.
Merci.
Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, malheureusement, les mesures sont excellentes. Hein. C'est vraiment ce qui se fait de mieux, c'est l'état de l'art. Mais leur interprétation est vraiment tout sauf directe.
Alors oui, mais expliquez-nous d'abord assez rapidement ce qui se passe dans ce genre d'événement, d'éruption, pour qu'on retrouve ces souvenirs dans les glaces.
Alors l'idée du processus, c'est que lorsque des rayons cosmiques viennent frapper l'atmosphère de la Terre, qu'il s'agisse de rayons cosmiques produits par des objets astrophysiques lointains ou par des éruptions solaires, eh bien ces protons viennent frapper des atomes dans l'atmosphère, ces atomes changent de nature, ça crée des isotopes, et ces isotopes se retrouvent en suspension dans l'atmosphère pendant quelques mois, jusqu'à ce qu'ils se répandent sur toute la surface du globe et se déposent en particulier dans les glaces au niveau des pôles, mais pas seulement, un peu partout sur Terre. Et petit à petit, les centenaires passant, les glaces se retrouvent piégées par d'autres glaces. Et lorsqu'on fait des carottes de glace et qu'on extrait ces glaces, eh bien on peut retrouver ces radionucléides qui ont été produits par les impacts des protons des milliers d'années d'après, ce qui est le cas de l'étude qui nous concerne aujourd'hui.
Et là, on trouve assez de radionucléides, comme vous dites, pour imaginer une super éruption. C'est ça qu'il faut entendre?
Alors c'est les conclusions des auteurs et c'est une conclusion qui est assez plausible mais qu'il faut tout de même relativiser par plusieurs problèmes. Le premier c'est que toutes ces la façon de remonter des mesures de la proportion de radioisotopes dans les carreaux de glace jusqu'au flux de protons éventuellement solaires qui nous intéresse ici passe par des modèles qui sont en général assez simplifiés et qui ne tiennent pas toujours compte de tout un tas de processus aléatoires difficiles à mesurer aujourd'hui comme ne serait-ce que le temps qu'il faisait à l'époque, les circulations d'air, les précipitations qui ont pu faire qu'il y ait plus ou moins de radionucléides qui se déposent à un moment donné sur Terre. On ne traite pas non plus ou de manière très difficile de la diffusion de ces radionucléides dans les carottes de glace. Donc je dirais qu'il faut prendre avec des pincettes les résultats quantitatifs qui sont donnés par cette étude. Mmh. Un autre aspect, c'est qu'on a des cas d'événements passés du même genre, il y en a plusieurs, dont ils parlent d'ailleurs dans leur article. Un événement très intense qui aurait eu lieu en 994 après Jésus-Christ. Et il y a des rapports historiques qui montrent que quelques mois avant cet événement, en fait, il y a eu des aurores polaires qui ont été observées un peu partout dans le monde pendant des mois, et ce qui peut laisser supposer que l'événement de 994, qui est très similaire à celui de -660, en fait, aurait été formé non pas par une seule super éruption, mais par plusieurs éruptions intenses au cours de toute une année. Et ça, c'est des fausses qu'il est très difficile, a posteriori, 2000 ans après, de quantifier. Donc ce que cette étude nous montre, c'est qu'il s'est vraiment passé quelque chose en moins 660, mais était-ce un seul événement? Mais parce que si en était plusieurs, on ne peut pas savoir.
Alors si on part du principe qu'il y en a eu un, sachant que c'est hypothétique, quelles seraient les conséquences d'un tel événement sur notre monde actuel? Est-ce que c'est aussi catastrophique que les films de science-fiction nous le laissent imaginer?
Si maintenant je devais répondre en trois mots, je dirais « on ne sait pas ». Donc la seule chose qu'on peut estimer aujourd'hui, c'est de façon modèle dépendante bien sûr, oui. C'est que le flux de protons qui viendrait de cet événement unique aurait été 100 fois plus fort que l'un des événements à protons les plus intenses qu'on ait jamais observé, qui était en 2005. Donc un flux de protons 100 fois plus intense, ça paraît énorme, On sait que ça causerait des dommages sur les satellites qui nous entourent et qui servent à faire fonctionner nos technologies, mais aujourd'hui on est bien incapable de quantifier précisément ces dommages-là.
D'ailleurs, pourquoi
c'est dommages éventuels sur les réseaux électriques hein, qui nous concernent nous au sol, aujourd'hui on n'est pas du tout capable de les évaluer non plus.
Enfin, on a eu un petit exemple avec le Québec quand même il y a quelques années de ça, qui a été assez impressionnant, hein, Guillaume Ollagnier.
Absolument,
avec la grande panne électrique. Hein. Oui, c'est ça, oui.
Oui, donc il y a eu une panne de 6 heures hein, d'électricité, en hiver d'ailleurs, c'est problématique. Depuis, les constructeurs ont quand même changé leur façon de faire fonctionner les lignes à haute tension et les transformateurs, notamment en les renvoyant à la terre et en les blindant à plusieurs endroits. Et on a eu d'autres événements, notamment des événements dits de Halloween, qui ont eu lieu fin octobre 2003, qui ont aussi provoqué des pannes de courant, par exemple une heure en Scandinavie. Mais c'était pas 6 heures, c'était plus qu'une heure pour des événements qui étaient à peu près de la même intensité qu'en 1989. Donc on sait un peu se protéger maintenant, mais évidemment pas parfaitement.
Est-ce que ce que nous savons aujourd'hui du Soleil nous laisse vraiment imaginer ou soutient cette thèse de la super-éruption ?
Ben, ça fait encore partie des sujets de recherche. Il y a plusieurs écoles qui s'affrontent dans les débats scientifiques sur le sujet. Certains pensent que le Soleil n'est pas capable de faire des super-éruptions compte tenu de la taille des taches qu'il est capable de produire depuis plusieurs centaines d'années. D'autres pensent que le Soleil pourrait venir à des situations d'activité extrêmement intense comme on pense peut-être le voir sur des étoiles qu'on imagine être de type solaire. Donc les recherches sont encore très actives dans le domaine, mais elles sont très difficiles parce qu'on est en train d'étudier un objet qu'on n'a jamais observé directement, qui est une super-éruption solaire. Est-ce que ça existe tout court ? C'est pas évident.
Alors, une dernière question. À la fin de l'étude, les auteurs sont assez directs. Ils parlent des éruptions et des super-éruptions. Ils disent « Nous avons sous-estimé les risques et nous ne sommes pas assez préparés ». Est-ce que vous partagez ce point de vue, même pour des éruptions, j'ai envie de dire, classiques ?
Je pense que même pour les éruptions classiques, les auteurs ont raison de dire qu'on n'est pas assez préparé. La météorologie de l'espace, qui est la version appliquée de la physique solaire, est une discipline encore jeune, qui avance que depuis quelques décennies, et qui repose sur des modèles qui sont encore très incomplets, et sur des mesures qui sont bien plus sporadiques que les mesures de météorologie terrestre. Donc même pour ce qui concerne l'activité solaire d'aujourd'hui, qui, on le sait, provoque des problèmes sur notre technologie. On a encore beaucoup de travail à faire, aussi bien dans la recherche fondamentale en amont que dans le développement d'applications. Et c'est d'ailleurs des programmes qui sont soutenus aujourd'hui, par exemple par l'Agence spatiale européenne, le CNES française et tout un tas d'autres agences qui veulent développer tout ça.
Merci Guillaume Ollagnier, en tout cas, pour ces précisions. Et Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, 3 milliards de volts, ça chauffe encore dans le ciel. En Inde, des scientifiques ont documenté la plus grande différence de potentiel jamais rencontrée dans un orage. Cette mesure indirecte a eu lieu en 2014, pendant une très grosse dépression. Elle correspond à la différence de charge électrique entre le haut et le bas du nuage. Cette valeur record de 3 milliards de volts est une surprise pour la communauté scientifique, sachant qu'une décharge de foudre classique est seulement de quelques dizaines de millions de volts. Quand l'anatomie des rats nous renseigne sur d'anciens humains, en Indonésie, sur l'île de Flores, il y a 100 000 ans, vivait un cousin des hommes modernes nommé Homo Florensis. En étudiant les variations de taille de plus de 10 000 rats trouvés dans la grotte de Liangbua, où vivait le petit homme, des chercheurs ont découvert que l'habitat de l'île avait drastiquement changé il y a environ 60 000 ans, passant de plaines ouvertes et herbeuses à un environnement plus forestier, moins favorable aux rongeurs. Un changement qui n'a pas vraiment profité aux hommes de Flores, qui étaient friands de rats, selon les découvertes archéologiques. Et puis pour terminer, un pigeon qui valait 1 million Armando. C'est un pigeon voyageur de course, a été vendu ce week-end pour 1,2 million d'euros à un acheteur chinois lors d'une vente aux enchères. Vainqueur de nombreuses courses colombophiles qui consistent à rentrer le plus rapidement possible après avoir été lâché à plusieurs centaines de kilomètres de son pigeonnier, Armando devrait certainement servir pour l'élevage de futurs champions, précise le vendeur. Éric Baratet, un petit mot, parce que les pigeons sont des animaux dont l'intelligence a été exploitée depuis très longtemps. Hein.
Oui, on croyait que c'était instinctif alors que ça ne l'est pas du tout. C'est pour ça qu'il y a de très fortes différences d'un pigeon à l'autre. Parce que ces pigeons doivent apprendre à mobiliser leur compas solaire, leur compas magnétique, ils doivent apprendre à cartographier les endroits où ils sont, etc. Et donc ça ne se fait pas, ça ne leur tombe pas sur la tête, c'est le cas de le dire. Donc on leur l'apprend petit à petit, et cet apprentissage fait qu'il y en a qui sont beaucoup plus doués que d'autres.
1,2 million donc de dollars pour ce pigeon vendu ce week-end.